Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pendant cette émission de Priorité Santé, nous vous proposons de revenir sur les symptômes et les traitements du psoriasis, cette maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut avoir un impact très fort sur la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Psoriasis limité pour la majorité des malades, ses formes les plus sévères peuvent se révéler très invalidantes en fonction, bien sûr, de l'étendue des lésions cutanées. Et dans près de 30% des cas, eh bien, il y a des atteintes articulaires associé. Le psoriasis, maladie stigmatisante qui suscite parfois des regards empreints de dégoût, des commentaires désagréables. À l'occasion de la 14e journée mondiale du psoriasis organisée dimanche, l'association France Psoriasis lance une campagne de sensibilisation pour en finir avec les discriminations et essayer de limiter les sentiments de gêne et de honte dont témoignent les malades. Pendant cette émission, nous retrouverons tout à l'heure le docteur Bruno Alioua, qui sera avec nous en studio. Nous l'attendons encore. Il est dermatologue et vénérologue à Paris. Et puis, nous serons en ligne avec le Sénégal. Nous retrouverons le professeur Fatima Tali, coordinatrice nationale du réseau international sur le psoriasis, médecin-chef aussi du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. En deuxième partie d'émission, nous allons évoquer cette vague inédite de dénonciation du harcèlement sexuel par les femmes. Ce mouvement amorcé dans le sillage du scandale lié au producteur américain de cinéma Harvey Weinstein, avec en France le manifeste contre l'impunité des crimes sexuels que le docteur Muriel Salmona a remis au gouvernement. Nous serons en ligne avec la présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Et puis bien sûr, pour nous rejoindre, il y a le numéro de l'émission. Vous pouvez nous appeler. Notre numéro Priorité Santé, c'est le 33 1 84 22 75 75. On attend, bien sûr, vos questions, vos témoignages pendant toute la durée de cette émission. Quelque chose qui nous arrive assez rarement dans Priorité Santé, eh bien, c'est d'attendre notre invité. Cela ne devrait pas tarder. On patiente avec un petit peu de musique sur RFI avant d'aborder le sujet de notre émission, cette maladie de peau, le psoriasis. Santé. On parle du psoriasis. On va être en ligne dans quelques secondes avec le Sénégal.
Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève ?
Priorité Santé sur RFI.
Le Sénégal, où nous sommes en ligne avec le professeur Fatima Tali. Bonjour, professeur Fatima Tali.
Bonjour.
Vous êtes médecin-chef du service dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, coordinatrice nationale du réseau international sur le psoriasis. On attend donc notre invité en studio. On va d'abord revenir sur les grands symptômes de cette maladie avec vous. Vous pouvez nous décrire ces symptômes. Comment savoir si l'on est atteint ou non du psoriasis ?
Je vous remercie. Alors, je vais commencer par décrire d'abord les signes cliniques. Alors, les signes cliniques, c'est de l'érythème, c'est des squames et qui atteint des zones bastions, comme on dit, des zones d'atteinte privilégiées, qui sont le cuir chevelu, les coudes, les genoux, la région lombaire. Mais le psoriasis peut atteindre également toute la surface cutanée, parfois avec des formes diffuses qu'on appelle universalis, qui atteignent les ongles, les cuirs chevelus et les muqueuses parfois.
Avec un épaississement de la peau ?
Alors, il y a un épaississement de la peau et il y a des squames. Il faut signaler peut-être les particularités sur peau noire, puisque sur peau noire, l'érythème est moins visible et remplacé plutôt par des troubles de la des dyschromies, des troubles de la pigmentation. Tantôt, les lésions sont plus claires que le reste de la peau, tantôt, elles sont plus foncées. Donc, ça, c'est une particularité. Signalons également les démangeaisons, le prurit qui fait partie des signes d'appel de la maladie. Et en dehors d'atteinte cutanée, au cours du psoriasis, on peut avoir une atteinte articulaire. C'est ce qu'on nomme le rhumatisme psoriasique. Concernant toujours les signes cliniques, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées et on a montré que le psoriasis pouvait être associé à beaucoup d'affections telles que le syndrome métabolique. On est également le syndrome métabolique, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, des troubles du métabolisme des graisses. On a également des facteurs infectieux qui peuvent déclencher le psoriasis et donc peuvent être associés dans certaines formes particulières, notamment chez l'enfant. L'enfant a tendance à développer la forme qu'on appelle en goutte, le psoriasis en goutte, et qui est souvent déclenchée par une infection streptocoxique.
Merci beaucoup.
Signalons enfin.
Oui, on vous écoute.
Oui. Alors, signalons enfin que l'infection par le VIH peut déclencher des cas d'authentiques tableaux de psoriasis.
Professeur Fatima Tali, vous avez une consultation spéciale à Dakar sur le psoriasis. Est-ce que on peut dire que les personnes à peau noire sont moins touchées justement que les personnes à peau blanche par cette affection dermatologique ?
Absolument, absolument. Il y a des différences de prévalence entre la peau noire et la peau blanche, mais ça c'est démontré dans tous les pays où il y a les deux types de populations. On a, par contre, depuis qu'on a institué cette consultation thématique psoriasis, on voit de plus en plus des patients être référés. Donc ça veut dire que c'est pas une maladie rare, contrairement aux résultats des études antérieures qui faisaient état d'une fréquence hospitalière de 0,3%. Si on compare, par exemple, à la France où on a des prévalences de 6%, c'est sûr que le psoriasis est plus rare en Afrique subsaharienne. Et ceci est attesté par des études effectuées au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, qui montrent également une faible prévalence hospitalière du psoriasis.
Alors,
mais du fait de
l'accessibilité aux soins,
de l'accessibilité limitée, qui est assez limitée aux soins, c'est sûr que ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a peut-être des cas qui ne sont pas diagnostiqués, ou bien même s'ils sont diagnostiqués, qui n'arrivent pas toujours en milieu hospitalier et qui ont d'autres recours thérapeutiques.
Alors, un accès restreint à ces soins, pourquoi ? Parce que c'est difficile de se former en dermatologie au Sénégal ?
Par contre, c'est pas si difficile depuis plusieurs années quand même. Le Sénégal a le DES, le diplôme d'études spécialisées en dermatologie, et a formé de nombreux dermatologues, non seulement sénégalais, mais de la sous-région et du Maghreb, puisque la majorité de nos étudiants du DS de dermatologie nous viennent de l'étranger. Donc c'est une formation qui est disponible au Sénégal. L'accès aux soins est plutôt dû à l'inaccessibilité financière aux structures sanitaires des populations qui ont une affection chronique. C'est surtout la difficulté. Mais actuellement, avoir le diagnostic d'un psoriasis au Sénégal est devenu chose aisée vu que le nombre de dermatologues, même s'il n'atteint pas certaines proportions, est quand même assez suffisant pour couvrir une certaine partie de la population en particulier dans la capitale à Dakar.
Professeur Fatima Tali, vous avez un message particulier à faire passer. Tout à l'heure, vous parliez justement des affections, même des maladies chroniques associées au psoriasis. C'est un point très important selon vous.
Oui, c'est un point très très important. Les comorbidités, en particulier l'atteinte psychiatrique, les atteintes digestives, pulmonaires, et c'est ce qui, surtout cardiovasculaire, avec le risque augmenté d'infarctus lié à l'hypertension, lié au syndrome métabolique. C'est pourquoi cette consultation thématique, elle est animée également par d'autres spécialistes, notamment par des cardiologues, des psychiatres, des rhumatologues et des infectiologues. Donc c'est une approche multidisciplinaire, ça c'est important, parce que le psoriasis n'est pas une affection limitée uniquement à la peau. L'autre message fort, c'est le nombre, la fréquence élevée du recours au traitement traditionnel, puisque pour la majorité des patients sénégalais qui souffrent de psoriasis, ils appellent cette maladie le Ndorum City. Et le Ndorum City est soigné par les tradipraticiens qui donnent des remèdes qui ne sont pas toujours efficaces, mais parfois peuvent se révéler délétères, notamment avec l'aggravation de la maladie ou l'apparition d'authentiques toxidermies, c'est-à-dire des allergies aux médicaments traditionnels. L'autre message, c'est l'approche psychologique qu'on a tendance parfois à négliger, mais que nous avons quand même pu réussir grâce à l'intervention des psychologues et des psychiatres dans le cadre de focus group ou d'entretien individuel, et qui a révélé quand même beaucoup de souffrances psychologiques et des réaménagements. C'est pourquoi, en dehors de la prise en charge du dermatologue, il est intéressant de référer ces patients à un psychologue ou un psychiatre pour l'aider à améliorer sa qualité de vie. Nos résultats ayant montré que la qualité de vie était très, très altérée chez ces patients qui ont des réaménagements tels que le repli sur soi, l'évitement de certaines situations. Et enfin, terminer sur le coût de la prise en charge médicamenteuse, puisque pour des patients à revenus faibles, parfois c'est jusqu'à 134 € qu'ils dépensent pour prendre en charge cette maladie. La plupart des médicaments disponibles sont assez coûteux. Et ne parlons pas des biothérapies qui ne sont pas du tout accessibles à ces patients. Donc, d'où une recommandation forte à l'endroit des autorités sanitaires pour aider ces patients souffrant de psoriasis, en particulier en aidant l'Association des patients psoriasiques sénégalais. Donc ça, c'était un message également.
Merci beaucoup pour ce message, professeur Fatima Tali. Je rappelle que vous êtes médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, également coordinatrice nationale du réseau international sur le psoriasis. Docteur Bruno Alioua, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint, vous êtes dermatologue vénérologue à Paris. À l'instant, le professeur Fatima Tali insistait sur la dimension, elle est importante, la dimension psychologique quand on est atteint du psoriasis. Il y a une souffrance physique, quand on a des démangeaisons, quand on a ces plaques, même des fois des problèmes articulaires, on l'a rapidement évoqué, on va en reparler. Mais il y a aussi cette image qui est altérée et c'est vraiment une cause de souffrance.
C'est une très grande image de souffrance. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que beaucoup de patients qui souffrent de psoriasis souffrent de stigmatisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le regard des autres qui leur font beaucoup plus mal que les plaques qu'ils ont sur le corps ou sur la tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'habitue à ces plaques et finalement, on commence à vivre avec son psoriasis. Et beaucoup de patients nous disent « je vis avec mon psoriasis, bon an, mal an ». Et les gens adoptent souvent ce qu'on appelle des situations d'adaptation ou de coping. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre des vêtements à manches longues pour pas qu'on voit leurs plaques. Ils ne mettront jamais de vêtements sombres pour pas qu'on voit les squames, les pellicules sur leurs vêtements. Et donc, c'est le regard des autres qui leur font du mal. Le regard, et ce regard, parfois, est dû au fait que bien souvent, malheureusement, beaucoup de gens pensent que le psoriasis, ils ont des fausses idées. Une étude en France a montré que, par exemple, je crois qu'il y avait 20% des gens qui pensaient que le psoriasis était dû à une mauvaise hygiène. C'est faux. Ce n'est pas dû à une mauvaise hygiène. Il y a des gens qui disent que le psoriasis est une maladie transmissible. C'est faux. Ce n'est pas une maladie transmissible. Les gens pensent que serrer la main d'une personne qui souffre de psoriasis, on risque d'attraper le psoriasis. C'est faux. Donc,
Pourquoi autant de préjugés? Pourquoi ces préjugés?
C'est la méconnaissance de la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, cette maladie est très fréquente. L'éminente dermatologue qui vient de parler explique qu'en Afrique, la proportion est de 0,6%. C'est vrai qu'elle est 10 fois plus importante en Europe. Elle est de 6%. Et c'est vrai que la méconnaissance...
Avec d'ailleurs des manifestations différentes. On parlait tout à l'heure pour les peaux noires, une dépigmentation. Pour les peaux blanches, des rougeurs et ces squames, en général, on voit ces plaques rouges qui sont assez visibles.
Qui sont très visibles. Et il faut comprendre que c'est une maladie qui peut être... On a des degrés très variables de cette maladie. C'est-à-dire que certaines personnes auront des simples plaques sur les coudes. Bon, bah, finalement, ils vivront bon an mal an avec ce problème. Ils le connaîtront, comme on peut avoir un petit problème de peau.
Et d'ailleurs, des fois, se tromper, hein, confondre avec une autre affection dermatologique. Parler d'eczéma quand c'est du psoriasis.
Exactement. Ou des gens qui auront du psoriasis du cuir chevelu et qui se passera à tort pour une dermite séborrhéique du cuir chevelu. Des gens qui auront des lésions au niveau des ongles et on dira que c'est une onychomycose, c'est-à-dire une atteinte mycosique des ongles. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est d'abord de poser le diagnostic, poser le bon diagnostic, expliquer aux patients que, aujourd'hui, en 2017, on dispose en fait d'un arsenal thérapeutique. Hein. Il y a des crèmes, il y a des traitements qui existent. Et il faut bien expliquer aux patients que c'est une maladie. Et ce qu'a bien expliqué le praticien avant moi, c'est le retentissement psychologique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le psoriasis a un retentissement sur la qualité de vie. C'est-à-dire que finalement, les gens seront moins heureux. Et puis, ne feront pas les mêmes activités que les autres. C'est-à-dire qu'ils auront tendance à aller moins souvent à la plage en se disant, une exclusion. Alors, c'est pas une exclusion des autres, parce que finalement, c'est par peur du regard des autres, on évitera certaines activités. Et même, on aura peur. Alors, il faut également savoir qu'il y a des localisations un petit peu cachées, entre guillemets. Nous, on appelle ça les localisations cachées. Vous allez avoir des gens qui vont avoir des localisations au niveau des organes génitaux, c'est-à-dire sur le sexe, au niveau des organes génitaux externes. Et donc, les gens seront gênés et finalement auront l'impression qu'ils ont quelque chose dont ils ne peuvent pas parler. Ils ne veulent pas en parler à leur médecin traitant parce qu'ils ont honte. Et vous avez comme ça des gens qui, pendant des années, ont des problèmes de peau qu'ils ne traiteront pas.
Ça donc peut donc aussi altérer la vie sociale, la vie sexuelle.
Et la vie sexuelle. Et aujourd'hui, on voit le retentissement sur la sexualité est très, très, très important.
Alors, vous soulignez tout à l'heure les différents degrés hein, des gens qui ont à la limite des petites plaques au coude. Par contre, il y a des versions beaucoup plus graves. On l'a déjà abordé avec les atteintes au niveau articulaire. Là, ça peut être particulièrement douloureux.
Tout à fait. En fait, pendant très longtemps, on a considéré que le psoriasis, c'était une affection qui touchait exclusivement la peau. Et c'est vrai que plus on avance dans les recherches, plus on s'aperçoit que le spectre de la maladie touche différents organes. Et comme le dermatologue avant moi l'a bien expliqué, c'est une maladie qui est multisystémique, c'est-à-dire qui touche à la fois les articulations, mais également on a des atteintes cardiaques associées. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, le patient, on doit le prendre dans sa globalité et non pas avoir seulement un œil sur les lésions cutanées.
Vous dites systémique parce que c'est le système immunitaire qui est en jeu aussi ?
Alors, le rôle du système immunitaire est en jeu, mais systémique, en fait, plutôt multi-organique, c'est-à-dire touche plusieurs organes. Et donc, le médecin, et c'est là où c'est très important, c'est que bien souvent, jusqu'à présent, le psoriasis, c'était une maladie qui était prise en charge exclusivement par le dermatologue. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est prise en charge par de nombreuses spécialités. Et plus on avance, plus on apprend beaucoup de choses sur cette maladie.
Donc, y compris par les rhumatologues. On va, avant l'interruption, parler peut-être des formes les plus graves. Certaines personnes sont atteintes jusqu'à 90% de la surface du corps touchée. Et il y a même, dans certains cas extrêmes, des pronostics vitaux qui sont engagés, hospitalisation à la clé.
Tout à fait. Alors, il faut comprendre que dans l'écrasante majorité, dans 80% des cas, nous avons des patients qui souffrent d'un psoriasis léger ou modéré, en sachant que c'est pas parce qu'il est modéré qu'il n'a pas de retentissement sur la vie, parce que il y a des gens pour qui avoir une plaque, c'est dramatique, et d'autres pour qui ça ne pose pas de problème, mais en tout cas, à savoir que 80% modéré ou léger, et 20% c'est des psoriasis sévères, avec parfois des complications. complications comme les rétrodermies qui peuvent être extrêmement graves.
Docteur Bruno Alioua, vous restez avec nous. On va dans 3 minutes reparler du psoriasis, les traitements, les prises en charge. Nous serons aussi en ligne avec nos auditeurs. Vous pouvez continuer à nous appeler au 33 80 82 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité santé consacrée au psoriasis, maladie décrite par l'OMS comme non contagieuse, douloureuse, inesthétique, invalidante et incurable. Une inflammation chronique de la peau qui implique et impose une hygiène de vie particulière puisque le patient doit apprendre à vivre avec un psoriasis. Et toujours avec nous, le docteur Bruno Alioua, dermatologue et vénérologue à Paris. Docteur Alioua, vivre avec un psoriasis, c'est sur la durée, hein. Ça s'inscrit vraiment au quotidien, au jour le jour, puisqu'on n'en guérit pas.
On n'en guérit pas. Et c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en dermatologie, bien souvent, le médecin dermatologue est confronté à des affections dermatologiques aiguës. C'est-à-dire, vous avez une piqûre d'insecte, vous avez un urticaire, vous avez un eczéma, et bien souvent, ou une mycose, et bien souvent, un traitement bien établi permet de guérir très rapidement une affection. Et parmi l'ensemble de nos patients, on a un pool de patients qui ont des dermatoses chroniques qui évoluent sur le temps. Et là, c'est très très important de bien prendre en compte que il faut bien expliquer aux patients que c'est une maladie dont on ne guérit pas, qui pourra avoir des poussées au cours de la vie, très importantes, et puis d'autres moments où il y aura des moments où finalement, on ne sait pas pourquoi, ou enfin si on sait, on a plusieurs explications, où il y aura moins de lésions. Mais ce qui est très très important pour le patient, c'est pour le médecin, c'est d'établir une relation très proche avec son patient, parce que c'est un patient qui a une maladie chronique qu'on est amené à revoir, de façon à bien comprendre les répercussions que peuvent avoir cette affection. C'est-à-dire que comprendre parfois que les patients sont pas toujours à même de nous raconter exactement les conséquences que ça peut avoir. Par exemple, une localisation au niveau génital peut avoir des grosses conséquences dans la vie d'un couple. Et bien souvent, le patient a du mal à nous le dire. Donc, parfois, c'est très important d'anticiper avec le patient tous ces problèmes. Et je crois qu'aussi, ce qui est très très important, c'est également de dépister les complications qui pourraient survenir au cours de la vie et puis informer le patient.
Établir une relation de confiance, on l'a compris, il y a un âge moyen où cette maladie se déclare, où c'est... Ça dépend complètement
alors,
des cas.
Alors, il y a plusieurs. Hein. Il y a aussi bien du psoriasis que chez les enfants, mais on sait que la grande partie des patients, le psoriasis se déclenche entre l'âge de 20-35 ans. Et c'est probablement une des tranches d'âge les plus difficiles à prendre en charge, parce que c'est une période difficile, c'est une période où on est encore... Bien souvent, parfois célibataire, on établit, on a les études, on a le début de la vie professionnelle. Donc, c'est souvent très très mal ressenti l'annonce en fait d'une maladie chronique.
Alors, on va parler maintenant des traitements. Hein. Bien sûr, tout dépend de la nature du psoriasis, de l'étendue des lésions, de la personne qu'on a aussi en face de soi. Le plus simple, c'est quoi ? Ce sont les corticoïdes ?
Alors oui, les corticoïdes, c'est finalement le premier traitement, le seul traitement, c'est le traitement qui a été en fait l'unique traitement pendant des décennies et des décennies. Les corticoïdes ont une action efficace et bien souvent ce qu'on fait, c'est qu'on associe aux corticoïdes soit de l'acide salicylique, soit il y a des formes de corticoïdes associées avec l'acide salicylique. Alors pourquoi l'acide salicylique ? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le psoriasis, c'est lié à une multiplication très importante des cellules de la couche la plus superficielle de la peau. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi ces cellules de la couche la plus superficielle de la peau, qu'on appelle les kératinocytes, s'emballent, se multiplient très très rapidement. Et comme ça se multiplie très très rapidement, ça va faire une sorte de petite tache blanche squameuse. Ça va devenir une lésion un petit peu épaissie. Alors parfois, pour agir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une crème pour décaper. Pourquoi ? Parce que si jamais je prends un gant de crin, ce qui est l'erreur la plus fréquente, et que je frotte, bien souvent, c'est le phénomène action-réaction. C'est ce qu'on aime, nous, on appelle en dermatologie le phénomène de Koebner. C'est dans les zones où il y a eu un frottement, ben, on a tendance à avoir une multiplication réactionnelle de la peau. Et donc, c'est vrai qu'on utilisera donc une forme, c'est ce qu'on utilisait pendant très longtemps et qu'on continue aussi à utiliser. C'est soit un corticoïde avec de l'acide salicylique, soit un corticoïde avec de la vitamine D en crème. La vitamine D a une action dite kératolytique, c'est-à-dire qu'empêche la multiplication des cellules.
Avec des moments de relais, on commence par un traitement d'attaque avec les corticoïdes et après on passe à d'autres crèmes et puis il y a des paliers en fait de décompression en quelque sorte.
Voilà, alors on sait aujourd'hui que les corticoïdes, ce qu'il faut, c'est traiter. On traite en phase d'attaque, on essaye en fait de, si on fait bien son traitement, généralement les plaques disparaissent, et ça c'est, tous les patients le savent, mais il y a un phénomène que nous on connaît bien en médecine, qui est un phénomène relativement nouveau, dont on parle depuis une vingtaine d'années, c'est l'observance. C'est-à-dire qu'on a bien souvent des patients qui viennent nous voir, à qui on prescrit des crèmes, et on ne sait pas pourquoi, et on le sait, parce que c'est assez clair, dans les premiers jours du traitement, ben, ils vont utiliser ces crèmes, et puis au bout de quelques jours, il va y avoir un essoufflement, c'est-à-dire que là où on dira vous appliquez la crème deux fois par jour, au bout de quelques jours, ils vont passer à une fois par jour, et puis après ils vont oublier un jour, deux jours, trois jours. Et donc on sait que, bien souvent, les patients, quand ils voient une amélioration, parfois ils disent, bon ben ça va, ça suffit.
Ils lèvent le pied.
Alors il faut comprendre pourquoi, hein. Il y a plusieurs explications. Dans les crèmes, il y a le côté un petit peu collant, un petit peu malodorant parfois, et puis le côté un petit peu rébarbatif d'avoir à se mettre des crèmes.
Docteur Bruno Alouia, vous restez avec nous. Tout de suite, on va prendre un auditeur en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Une auditrice, c'est Marlise. Elle est en ligne de Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Marlise.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, Marlise.
Bon, moi je souffre d'une maladie de la peau depuis environ 10 ans aujourd'hui. Et j'ai consulté plusieurs dermatologues. Au départ, on m'a parlé du stress. On m'a prescrit des crèmes que j'ai utilisées, mais dès que j'arrête, ça reprend. Et une autre fois, on m'a parlé d'un manque d'oligo-éléments. On m'a prescrit aussi des oligo-éléments que j'ai pris, mais dès que j'arrête, ça reprend. Le dernier dermatologue que j'ai consulté m'a parlé d'un parapsoriasis. Alors, il m'a prescrit une biopsie. C'est vrai que je ne l'ai pas encore faite. Il m'a prescrit une biopsie pour voir si ça ne cache pas une autre maladie. Donc, j'aimerais savoir si, quelle est la différence. Et je note que mon conjoint aussi souffre de lutte du psoriasis, effectivement. Quelle différence il y a entre les deux? Parce que c'est vrai que je vois déjà la différence sur nos deux peaux. Mais je veux savoir s'il y a plus de ça, il y a d'autres différences. Et quelle maladie pourrait, quelle autre maladie aussi cela pourrait cacher si ça cache vraiment une autre maladie?
Alors, Marlie s'interroge sur la différence entre psoriasis et parapsoriasis. Et qu'est-ce que pourrait déceler cette biopsie que lui a conseillé de faire son médecin?
Alors, il faut comprendre que la dermatologie, c'est une science du visuel. C'est-à-dire qu'on pose notre diagnostic pour le psoriasis dans 90% sur l'aspect des lésions. Parfois, on va toucher, parfois, on va gratter un petit peu pour vérifier. Et dans 90% des cas, l'aspect du patient permet de nous dire c'est un psoriasis. Mais il faut savoir que dans très peu de cas, on a parfois un problème, c'est que parfois on a des doutes diagnostiques. S'agit-il vraiment du psoriasis? Alors il y a une maladie qui ressemble au psoriasis, mais qui n'est pas le psoriasis, mais il y en a d'autres, qui est le parapsoriasis, qui est une forme de maladie un petit peu de peau, mais qui est pas du tout de la même famille que le psoriasis, malgré le nom qui lui est donné. Et donc en fait, probablement parce que le médecin veut avoir un diagnostic sûr en vue de mettre en route une thérapeutique adaptée, il a besoin de réaliser ce qu'on appelle une biopsie cutanée. C'est pas grave, on fait une petite anesthésie locale, on prend un vraiment un petit bout de peau de 2-3 mm, pas plus, 3-4 mm. On l'envoie à la napate qui permettra de dire exactement quel est le diagnostic. Je pense que le médecin de Marie-Lise cherche avant tout à conforter son diagnostic. Ce n'est pas, on ne posera un diagnostic de parapsoriasis qu'après l'obtention de la biopsie. C'est un facteur, c'est un élément orientateur, mais ce n'est nul moins une confirmation. On peut pas, faut pas qu'elle s'angoisse, faut pas qu'elle commence à regarder sur internet, faut pas qu'elle s'angoisse. C'est peut-être simplement un psoriasis, mais dans une forme atypique.
Alors, si on a un parapsoriasis, ça change les traitements?
Oui, c'est-à-dire le traitement va changer, mais surtout on passera des traitements différents que le traitement local.
D'accord. Autre appel. Hein. Là, c'est Guilin qui est en ligne de République démocratique du Congo, du Kasaï oriental. Bonjour Guilin, on vous écoute.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auteurs à Radio RFI.
On vous écoute, Guilin.
Oui, ma protection est suivante. Ça fait maintenant un temps que j'ai été diagnostiqué de la psoriasis. La biopsie a été faite et la diagnostic a été confirmée. J'ai reçu le traitement. Il y a eu un peu de changement. Mais après un temps, la maladie a réapparu encore.
Le traitement, ce sont des crèmes? Excusez-moi, Guilin, le traitement, ce sont des crèmes, des corticoïdes?
Oui, ce sont les crèmes et les produits aussi. J'ai reçu beaucoup de crèmes, parfois, qui vont au blanchissement de la peau. Après un temps, la maladie réapparaît encore. Maintenant, sous forme généralisée, parce qu'il y a l'apparition des pommes sur à peu près 90% de mon corps, j'ai suivi encore les traitements. Et chaque fois que vous suivez les traitements, il y a au moins la disparition de ces squames et de mes gens. Dès que vous arrêtez les traitements, le mécanisme réapparaît, aussi les squames, et aussi les pruites. Maintenant, je voulais savoir, qu'est-ce que le médicament que je peux prendre pour stopper cette maladie pendant un certain temps, ou encore comment éviter à ce que les squames et les mécanismes puissent réapparaître de nouveau?
La question de Guilin Bruno Alioua, il le dit. Il en a marre de prendre ses médicaments, c'est long. Est-ce qu'il peut arrêter?
Non, enfin, après, chacun fait comme il le veut. Hein. Le problème, c'est que tout dépend. Je crois que c'est un traitement, c'est une dermatose chronique, donc c'est un traitement
mais
de longue
haleine. Mais il dit 90% de son corps est atteint, c'est quand même énorme
voilà,
comme étendue.
Alors dans ces cas-là, je crois que ce qui est très très important, c'est d'aller voir, essayer de voir un spécialiste pour essayer de voir une autre option thérapeutique. On dispose d'autres traitements, des traitements par la bouche. Je ne parle pas des biothérapies parce que c'est beaucoup, c'est
et qui sont inaccessibles en Afrique.
Inaccessibles, mais on dispose d'autres thérapeutiques qui ont une très bonne efficacité et qui permettent de traiter et de soulager les personnes. C'est vrai qu'on ne peut pas indéfiniment utiliser des traitements locaux, surtout si, comme dans le cas de Guilin, il y a l'efficacité commence à s'essouffler.
Est-ce qu'il existe des produits naturels, des produits faciles d'accès qui permettent de lutter contre les démangeaisons, de limiter les plaques?
Alors, en fait, il faut comprendre que la démangeaison de la peau, il y a un aspect subjectif. C'est-à-dire que pour une même peau, une même lésion, ben, c'est comme la douleur. Hein. Vous avez certaines personnes qui vont avoir une sensation de douleur très importante, d'autres moins importante. Et pour les démangeaisons, certaines personnes auront des démangeaisons très importantes et d'autres moins importantes. En tout cas, moi, ce que je conseille, c'est vrai qu'à tous mes patients, si on veut limiter la sensation de démangeaison, rien ne vaut d'hydrater, de graisser la peau.
Question concrète, en Afrique, on utilise très souvent le beurre de karité. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé?
Oui, c'est pour diminuer la démangeaison, sans aucun doute. On conseille toujours, mais en France, par exemple, on associe bien souvent au traitement pour lutter contre les démangeaisons, enfin, pour une crème émolliante pour graisser la peau.
Et mais non, ça veut dire qu'il faut retirer les plaques avant, par exemple? Il faut retirer les plaques avec certains produits, après la douche, en les retirant doucement, la crème émolliante?
Les plaques, on traitera les plaques avec un traitement médicamenteux. En revanche, rien ne nous empêche d'appliquer un émollient après. Alors, le petit truc du dermatologue, c'est toujours de dire, faites attention, n'utilisez pas n'importe quel savon. Il y a des savons qui sont très irritants, en particulier les antiseptiques. savons antiseptiques qui vont entraîner un assèchement de la peau. Donc on demandera toujours d'utiliser des savons surgras. Et quant au beurre de karité, c'est excellent. Et ce que moi je conseille souvent, c'est après la douche, sur la peau mouillée, d'appliquer la crème émolliente, ce qui entraîne un soulagement important, ou même de l'appliquer sur l'ensemble du corps avant d'aller se coucher, parce que l'on sait que les démangeaisons sont très importantes, plutôt le soir au coucher.
Docteur Bruno Alioua, on va prendre un dernier auditeur en ligne, c'est Khalifa qui est au Maroc à Rabat. Bonjour Khalifa, on vous écoute.
Bonjour. Moi j'ai ce problème, je l'ai rencontré depuis que j'ai voyagé au Maroc. En fait, quand je sors au soleil, ou bien quand je commence à faire du sport, ou bien même quand je suis sous le drap durant l'été, je ressens les démangeaisons au niveau de ma cuisse chevelure et presque sur la majeure partie de mon corps. Mais une fois que je commence à faire du sport, ça commence à passer. Parce que, par exemple, hier j'ai fait du footing et après la sueur, aujourd'hui j'ai bien dormi calmement. Mais si ça s'accumule encore quelques 2 jours, 3 jours, une fois que je sors, ou bien je reçois un coup de chaleur, j'ai la même chose. Et quand je rentre au Sénégal, durant l'été, ça m'arrive pas. C'était la question que je me suis posée, parce que hier, lorsque j'ai vu la publication, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour pouvoir trouver une solution. Parce que j'ai fréquenté pas mal de médecins généraux ici. Mais les médicaments qui m'ont prescrit, ça n'a pas marché.
Alors, Khalifa fait le lien entre son activité physique et l'arrêt des démangeaisons. Peut-être qu'il y a un lien avec le stress.
Tout à fait. En fait, il faut comprendre que le sport entraîne un bienfait à la fois physique, mais également psychique. Et c'est vrai que on a des éléments qu'on ne connaît pas très bien, mais qu'on commence à comprendre de plus en plus. C'est les liens entre le sport, l'activité physique, le bienfait psychique. Et c'est vrai que là, le sport, même si ça entraîne une sudation, même si ça entraîne un effort, même si ça a une action bénéfique, en fait, aussi sur la peau. Alors, bien sûr, ça peut aussi entraîner des petits problèmes de peau. Mais dans le cas de Monsieur Khalifa, je pense que c'est vrai que le sport, c'est probablement un moyen un peu de s'évader, de penser à autre chose, de ne pas avoir l'esprit préoccupé par le psoriasis et par des démangeaisons. Et c'est vrai que bien souvent, dans d'autres affections, les gens qui font du sport vous disent que c'est vrai que quand on court, on pense aux douleurs musculaires, on pense aux douleurs qu'on a dans le pied, on pense à son essoufflement, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier les démangeaisons. Et probablement aussi, il évoque aussi que quand il rentre au Sénégal, ça va mieux. Là aussi, il y a le rôle du soleil, qui a une action bénéfique sur la peau, et ça c'est important de le dire. Et puis tout à l'heure, on l'a dit aussi, et on le répétera par rapport aux médicaments. Il faut savoir qu'il y a des médicaments bénéfiques pour le psoriasis, mais il y a aussi des médicaments qui entraînent des poussées de psoriasis. On sait que certains médicaments peuvent entraîner des poussées de psoriasis. Donc très important, si vous avez une poussée après une prise médicamenteuse, essayez de le dire au médecin, parce que là, dans ces cas-là, il changera le traitement.
Merci beaucoup Khalifa pour cet appel. Pour conclure, docteur Bruno Alioua, on va revenir à la stigmatisation des malades assez brièvement. L'importance primordiale du regard de l'entourage.
Oui, c'est très important. Et je crois que ce qui est très important, c'est le rôle des proches. C'est-à-dire que une personne qui se sait, une maladie, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui doit être comme une affection chronique, c'est une maladie qui est en fait prise en charge par le patient. Le malade devient l'acteur de sa maladie. C'est lui qui lutte contre sa maladie. Mais pour bien lutter, c'est comme une équipe, une famille, c'est une équipe. Je le dis toujours, c'est une équipe de football ou une équipe de rugby. On est une équipe, et c'est vrai que tout le monde doit rentrer dans le doit aider la personne qui souffre. Pour toutes les maladies chroniques, c'est-à-dire que pour aider, pour lutter contre l'observance, pour mieux s'accepter, pour mieux surveiller son traitement médicamenteux, pour mieux surveiller son régime alimentaire, pour que la personne soit mieux, il faut faire partie d'une équipe, car on sait que faire partie d'une équipe, c'est comme ça qu'on arrive à gagner.
Et on serre les coudes. Merci beaucoup docteur Bruno Alioua d'être resté avec nous pour nous éclairer, battre en brèche un certain nombre d'idées reçues sur le psoriasis. Je rappelle que vous êtes dermatologue et vénérologue à Paris. C'est une véritable vague, largement relayée, analysée, disséquée. Aucun milieu social n'échappe depuis une dizaine de jours à la campagne de dénonciation du harcèlement sexuel par les femmes, d'abord par réseaux sociaux interposés, puis par le biais des médias au départ. Un scandale retentissant dans le cinéma américain, l'affaire Weinstein, les actrices qui, les unes après les autres, sortent du silence, dénoncent des gestes, des attouchements, puis des viols. Suivent des centaines de milliers de témoignages sur les réseaux sociaux, sous les mots-clés hashtag balance ton porc ou hashtag MeToo, pour ne citer que ces deux-là, des témoignages, dénonciations, dégoûts, débats. Et dans ce contexte complètement inédit, l'association Mémoire Traumatique et Victimologie a remis un manifeste contre l'impunité des crimes sexuels à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette association, vous la présidez, docteur Muriel Salmona, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialisé dans la prise en charge des victimes de violences. Avant d'évoquer avec vous les mesures urgentes que vous réclamez, est-ce que vous avez eu un premier retour une semaine après avoir remis votre dossier au gouvernement ?
Oui, j'ai pas mal de retours. J'ai des auditions au Sénat, à l'Assemblée nationale. Enfin, là, je pense qu'on est dans une fenêtre où beaucoup de choses peuvent bouger du côté du gouvernement, mais du côté aussi des parlementaires et puis d'une prise de conscience globale, puisque ça a été bien relayé, bien médiatisé aussi. Donc, on bénéficie un peu de cette vague aussi autour de ces dénonciations, de cette parole qui se libère. Et qui dure, donc pour une fois, on a vraiment des possibilités.
Une dynamique différente, on va reprendre justement ces mesures urgentes contre l'impunité, elles sont au nombre de 8. Alors au-delà des chiffres, il y a d'abord la lutte contre le déni, cette fameuse loi du silence, parce qu'à chaque fois qu'on parle de violence à caractère sexuel, eh bien on dit d'abord que c'est largement sous-évalué.
Oui, c'est sous-évalué, même si on a des enquêtes de victimation maintenant qui nous donnent des chiffres beaucoup plus proches de la réalité. Mais surtout, ce qui est dramatique, c'est le peu de personnes qui jusqu'à maintenant pouvaient parler de ces violences. Il y en a que 10% qui portent plainte, par exemple pour les viols, et 20% qui parlent à des professionnels. Et ça, il faut absolument tout faire pour que justement les victimes puissent prendre conscience de leurs droits, qu'elles identifient vraiment ce qui leur est arrivé, qu'elles puissent en parler en n'ayant pas peur de ne pas être crues ou de ne pas être entendues. Donc là, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'informer, de faire des campagnes, d'éduquer sur les droits, sur la réalité des violences sexuelles et de faire un dépistage universel. Ça fait partie de nos mesures où il faut aller aussi vers les personnes pour pouvoir leur poser la question. D'autant plus que la majorité des victimes de violences sexuelles, ce sont des enfants, ce sont des mineurs. Donc il ne faut pas attendre qu'ils parlent, parce qu'ils parlent souvent très très longtemps après. Il faut en fait aller vers eux, leur poser la question pour pouvoir les protéger, les prendre en charge et qu'ils aient accès à la justice.
Et justement, pour que cette parole se libère, eh bien, il faut que les personnes en face, celles qui vont recueillir la parole, soient aptes à le faire, d'où un véritable travail de formation des personnels, que ce soit ceux de l'éducation, de la santé, du social et bien sûr, force de l'ordre et justice.
Oui, tout à fait, pour que vraiment, justement, il y ait cette écoute réelle, qu'on puisse sortir de tous les stéréotypes habituels de ce qu'on appelle la culture du viol, où c'est la victime qui est mise en cause, et puis surtout qu'il y ait aussi une meilleure prise en charge au niveau du soin, au niveau judiciaire. Là, il faut savoir que les médecins doivent être absolument formés, surtout qu'ils sont le premier recours, et que l'impact de ces violences sexuelles sur la santé est catastrophique, est très important, et ça nécessite une prise en charge spécialisée et qu'on peut éviter presque la totalité des conséquences s'il y a une bonne prise en charge. Alors, si elle n'existe pas, c'est vraiment une perte de chance effroyable pour les victimes et ça va aggraver tous les phénomènes de maltraitance, d'incompréhension de tous les professionnels au cours de toutes les prises en charge.
Avec des préconisations concrètes, comme par exemple favoriser le dépôt de plainte en milieu hospitalier. Pas besoin d'aller au commissariat, d'affronter forcément le regard d'un policier, mais bien de le dire quand ça vient d'arriver directement sur le lieu du soin.
Voilà, sur le lieu du soin, que ce soit effectivement les services des urgences, les unités médico-judiciaires, mais aussi des centres de soins, dont des centres de crise et des centres de soins pluridisciplinaires, qui sont vraiment indispensables, et que, par exemple, la Convention européenne d'Istanbul réclame, dit qu'il faut absolument les mettre en place. Et c'est vrai que ça peut vraiment nettement améliorer le dépôt de plainte, si les victimes sont accompagnées, soignées dans un contexte sécurisant. Il faut qu'elles soient sécurisées aussi tout au long des procédures judiciaires. Pas seulement lors du dépôt de plainte, mais aussi lors des auditions, à tout moment, et même lors des procès. Sinon, c'est extrêmement maltraitant, et ça réactive leur traumatisme. Et ça peut, du coup, expliquer aussi pourquoi il y a cette impunité aussi, parce que au niveau judiciaire, les victimes souvent ne peuvent pas vraiment faire un récit suffisamment utilisable par la justice si elles ont des troubles psychotraumatiques trop importants.
Alors il y a un dernier point, on a assez peu de temps pour en parler, mais on va y revenir dans Priorité Santé. Tout à l'heure vous le disiez, l'essentiel des victimes sont des enfants, d'où la possibilité de parler longtemps après et cette grande question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels.
Oui. Alors nous, c'est ce qu'on réclame, une imprescriptibilité pour qu'il n'y ait personne qui reste sur le carreau, en quelque sorte. On réclame aussi une présomption irréfragable d'absence de consentement en dessous de 15 ans et même de 18 ans pour les victimes d'inceste, parce qu'on n'a pas d'âge de consentement légal. Les gens l'ont découvert avec effroi avec l'affaire de Pontoise, cette petite jeune de 11 ans. On réclame aussi une meilleure définition du consentement, une redéfinition du viol. Enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau de la loi et des juridictions spécialisées aussi avec des magistrats vraiment formés, là aussi spécifiquement à cette prise en charge.
Merci beaucoup docteur Muriel Salmona. Je rappelle que vous êtes psychiatre spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences et puis après cette déferlante anti-harcèlement, on vous donne rendez-vous dans Priorité Santé pour une émission spéciale. Ce sera le 24 novembre à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Nous verrons justement sur la durée quelle a été la répercussion de ce mouvement, de cette dynamique anti-impunité. Notre émission touche à sa fin. Lundi, c'est Sandrine Mercier que vous retrouvez derrière ce micro et toujours notre numéro Priorité Santé 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.